La Fontanelle.
Fragments sensibles et politiques.
Nous sommes en 2020 et notre collectif s'intéresse au plan de rénovation urbaine prévu à Émile-Dubois, un quartier de la banlieue est parisienne. Nous interrogeons plusieurs personnes concernées, bailleurs sociaux, établissements publics de rénovation urbaine, l'ANRU, ainsi que des habitantes et habitants de tout âge.
Dans ce podcast conçu par les collectifs La Fontanelle, Les Allumeurs et L'Insatiable, nous entendrons Tristian Lindeperg, responsable des politiques urbaines au PH d'Aubervilliers, Sarah Boujardine, chargée des missions Rénovation Urbaine, Unité Territoriale de la Rénovation Urbaine d'Aubervilliers, pleine commune, Yelena Perret, chef de projet Rénovation Urbaine, Unité Territoriale de la Rénovation Urbaine d'Aubervilliers, pleine commune, Martine Picard, présidente de régie de quartier Maladrerie Émile Dubois.
Le fait de faire un plan national de rénovation urbaine en identifiant un certain nombre de quartiers, en intervenant de manière massive sur le bâti, sur les espaces publics, et ça d'un point de vue coordonné sur l'ensemble de la France. Ça remonte effectivement à Borloo, des lois qui ont dû être établies entre 2003 et 2005, qui procèdent à la création de l'ANRU, donc l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, qui permet de lancer, à partir de 2005, un plan national sur plusieurs centaines de quartiers en France qui ont été identifiés et sur lesquels les villes, les bailleurs sociaux, les agglomérations, tous ceux qui vont dépenser de l'argent pour refaire la ville, contractent, entre guillemets, avec l'ANRU, qui est une agence d'abord de financement, qui est financée par le budget public, par l'État, et aussi beaucoup et de plus en plus par ce qui s'appelle maintenant Action Logement, qui était avant le 1% logement, 1% patronal, et qui en fait est la contribution des employeurs au logement de leurs salariés.
Donc 500 quartiers qui bénéficient d'un soutien de l'ANRU pour mener le projet de renouvellement urbain. Donc Aubervilliers fait partie de ces 500 sites en fait qui ont été retenus.
Pour mener des projets de renouvellement urbain, aujourd'hui, on a quand même besoin des financements de l'État. L'État a des objectifs et des contraintes dans lesquelles il faut plus ou moins essayer de se fondre, en fait. Et qu'en l'occurrence, la transformation d'un quartier est aussi parfois jugée à l'aune du nombre de démolitions. Mais encore une fois, c'est là qu'on en revient à des sujets qui sont très politiques.
Il s'est passé plein de choses sur le quartier. Il y a une tour qui a déjà été démolie, je ne sais plus, dans les années 80. Alors, c'était un crève-cœur pour les gens qui habitaient là. La tour a été abattue. Je ne sais pas où ils sont partis, les gens, mais c'est resté plus d'une dizaine d'années sans rien. Sans rien qui se passe. Pourquoi avoir abattu la tour au moment où ça s'est fait pour attendre 10 ans pour faire autre chose, quoi? Donc c'est bon, des choses comme ça, ben je crois que ça marque les gens aussi. C'est-à-dire que c'est incompréhensible.
Un maire, s'il veut bénéficier de financement dans le cadre de l'ANRU, il faudra qu'il puisse faire des compromis jusqu'à ce que l'ANRU lui dise OK. Parce que l'ANRU, lui, c'est pareil. Ils vont pas forcément dire « Nous, on veut faire ça, on veut faire ça, on veut faire ça. » Mais par contre, ils disent « Si vous voulez faire un truc... » Il faudra que ce soit comme nous, sinon on ne se met pas dedans. Il peut vraiment y avoir des conflits de besoins et d'objectifs très forts.
Et comment ça se passe ?
Ça se négocie, et c'est pour ça que parfois ça met du temps.
Et on est où là ?
Là, par contre, là, on est à côté du bazar, la boulangerie, Coccinelle. En fait, on est à côté aussi de la boucherie et la pharmacie.
Aubervilliers, moi, j'y vis depuis 16 ans. Donc, je trouve que c'est pas mal, parce que je suis encore là et je suis commerçant.
Et vous avez entendu parler de la rénovation de la cité qui va avoir lieu peut-être ?
Oui, on est en plein dedans et on a même une petite association avec les commerçants parce qu'il est question qu'ils démolissent ici. Et donc moi depuis 16 ans, on est dans l'action, enfin dans le mouvement de la démolition, mais apparemment chaque 6 mois c'est repoussé, les échéances sont repoussées et le projet aussi, on a eu X projets, on a fait une centaine de réunions en 15 ans de temps. Et on arrive à un moment où mes amis les commerçants sont un petit peu découragés. Parce qu'après une fois qu'on a fermé le commerce, rester jusqu'à 10h30, 11h du soir dans les réunions, et quand ça n'aboutit à rien, c'est un peu fatigant la langue.
Parce que vous voudriez quoi, l'association des commerçants ?
Nous on voudrait qu'ils rénovent un petit peu, comme vous pouvez voir, il n'y a rien qui va bien. Les fuites d'eau, on nous a parlé de démolition à chaque fois qu'on demande des travaux, on nous parle de démolition. Et finalement, il n'y a rien n'est fait, rien n'a été fait. Et même nous, on n'a pas investi dans les locaux, puisque en se disant dans 2 ans, dans 4 ans, dans 6 mois, ça va démolir. Et ce qui fait qu'au fil des années, les choses se sont dégradées. Et maintenant, on finit par se retrouver avec des locaux quand même qui sont pas mal abîmés. Et puis l'intérieur du centre, comme vous pouvez le voir. Mais bon, il y a quand même eu des petites améliorations entre temps, mais pas suffisamment pour motiver un petit peu les gens dans le quartier. Il aurait fallu créer un petit peu d'animation. On essaie de le faire un peu avec les commerçants, mais c'est pas toujours évident. Au niveau de la mairie, il y a toujours des petites choses qui bloquent.
Donc sur l'Enrue 1, il y a eu toute une discussion, on va dire, entre 2005 et en 2007-2008, on a signé la convention. Donc peut-être que le projet était mal ficelé, peut-être que le dialogue il s'est pas bien construit, voilà, etc. En tout cas, ça a été tellement conflictuel, et c'était juste en plus avant les élections municipales de 2008, que finalement, ça s'est soldé par on ne dépose pas le projet à l'Enrue. Et donc, la perspective d'avoir des millions et des millions de financements pour rénover le quartier se sont évaporés en 2008 parce qu'on a raté le coche, quoi. Donc nous, à partir de 2014, c'est déjà des trucs où on dit, on commence à parler potentiellement d'un Enrue 2, mais c'est presque un peu chimérique parce qu'on ne sait pas trop. À partir de 2016, on va dire, on rentre là pour le coup dans tout un travail de diagnostic.
Donc Plenco, ville, bailleur social, c'est eux qui diagnostiquent.
Oui, en gros, oui. Après, c'est tous ceux qui vont dépenser de l'argent dans le futur projet, en fait. Donc, l'Enrue a donné un cadre à cette phase, elle l'a appelé le protocole de préfiguration. Il y avait à peu près 18 mois de protocole de préfiguration.
Tout ce qu'on présente ici n'est que du projet. Et qu'à ce stade, il n'y a rien de validé. Et que du coup, ça peut encore évoluer en fonction des financements, en fonction d'une nouvelle équipe municipale potentiellement. Parce que rappelez aussi que en fait, les projets de renouvellement urbain, nous, on est, on va dire, l'équipe technique à pleine commune. Mais le porteur de projet reste la ville. Sur laquelle se fait le projet. Et donc les grandes orientations de projet et les validations, ce sont des orientations qui sont portées par la ville. Oui. Voilà. Et enfin, en fait, nous, on fait en fonction de ce qu'on nous dit de faire. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'est quand même des projets qui demandent beaucoup de temps pour être pensés et conçus. Enfin, ils sortent pas de nulle part. Ils s'appuient à la fois sur des études urbaines, ils s'appuient aussi sur un processus de concertation. J'ai retrouvé les chiffres, je peux vous les donner rapidement là, si vous voulez. Donc il y a quand même aussi toutes ces étapes-là qu'il est difficile de balayer d'un coup. Mais après, c'est du positionnement politique, hein, in fine.
Donc il y a tout ça qui se mélange, ça fait beaucoup de gens qui sont dans la décision. C'est beaucoup de choses à négocier et tout ça se stabilise au fur et à mesure avec des petites avancées.
Quand moi je suis arrivé, il y a beaucoup d'enfants qui jouaient ici les samedis après-midi. On avait beaucoup de parents, des couples qui s'installaient un peu, qui se posaient, qui mangeaient une glace, etc. etc. Et ça s'est perdu au fil du temps, ça s'est perdu. Parce que je pense que c'est un peu triste, c'est un peu austère. Comme je sais pas si vous rendez un petit peu compte, on est à 50 mètres du métro, on est à moins d'un kilomètre de Paris. On a vraiment le sentiment d'être abandonné. et d'être un peu oublié par tout ce qui est tout ce qui concerne les modernisations. Il n'y a rien qui aboutit. Il n'y a rien. Les 15 dernières années, rien n'est tombé dans le bon sens, si vous pouvez faire. Alors on attend, en espérant qu'avec le Grand Paris, ça va peut-être bouger un petit peu.
Parce que quand il parle de démolition, vous seriez plutôt pour la rénovation ?
Peu importe. En ce qui nous concerne, nous, il faudrait de l'amélioration. Mais quel que soit le projet, mais il faudrait qu'il se passe quelque chose. Parce que c'est lassant au bout de... Encore moi, je suis là depuis que 16 ans seulement, les voisins à côté depuis 28 ans, les autres depuis 30 ans, la boucherie pareil depuis 30 ans. Donc quand on voit que les choses ne bougent pas du tout, c'est un petit peu démoralisant.
Et vous avez été consulté par les organismes comme Ville Ouverte ou Ozone ?
Oui, on a assisté à toutes les associations, à toutes les réunions des associations. On a fait l'Enru 1, l'Enru 2. Et au final, c'est beaucoup de perte de temps, puisque peu de temps après, on s'aperçoit que le projet tombe à l'eau, ou il y a eu changement au niveau de la mairie. Ça passe d'un projet mirobolant à quelque chose de perdu dans le temps. Donc au fil du temps, c'est vraiment, vraiment, vraiment désolant.
D'accord. Aujourd'hui, on est vraiment dans le dur de la discussion avec l'État. Et c'est d'autant plus compliqué parce que justement, là, on est sur une phase où... C'est compliqué d'aller voir les habitants pour leur dire qu'on est encore en train de... Enfin, ces phases de négociation là, et elles sont pas compréhensibles pour les habitants, parce que en vrai, l'État, on se donne un rendez-vous, ça met 2 mois à l'avoir, et puis on se constate pendant le rendez-vous, finalement, il y a un tel truc qui va pas, et puis ça repart pour un tour, et voilà. Enfin, justement, aujourd'hui, on est un petit peu bloqué dans le fait de dire, on va pas... Ça fait trop longtemps qu'on n'est pas revenu vers les habitants pour revenir maintenant en leur disant c'est en cours quoi. Voilà, il faut que maintenant il faut qu'on ait du neuf pour revenir en disant bon bah voilà, on a avancé là-dessus.
Est-ce que vous pouvez nous faire un son de votre guitare ?
Ah oui, à fond, bien sûr.
De la politique de la ville, c'est de dire qu'il y a un certain nombre de territoires qui sont en retard, qui n'ont pas le même niveau de service ou qui ont des difficultés particulières par rapport au reste du territoire. À ce titre-là, ils ont besoin de moyens particuliers et spécifiques et supplémentaires. Et du coup, on va avoir des services publics, par exemple, qui vont être plus dégradés dans les quartiers, mais qu'on va compenser en disant de toute façon il y a politique de la ville, donc on a des dispositifs qui permettent de le gérer, sauf que finalement comme on est parti de plus bas, on a beau rajouter une couche en plus, on n'arrive pas forcément plus haut.
C'est typiquement ce qui se passe à Aubervilliers.
Ça est écœurant. On a voulu détruire Aubervilliers, voilà. Aubervilliers, c'est une ville où je me suis presque vue grandir. Je suis arrivée à Aubervilliers, c'est André Carmont qui m'a ouvert ses bras.
Parce que oui, donc, t'es arrivée en quelle année ?
En 66.
Ah ouais.
Il y avait beaucoup d'humanité, c'était propre.
Ouais.
Tout était fleuri. Et j'ai du mal à me séparer d'Aubervilliers. Et je connais même des personnes qui m'ont écrit, ils sont partis. Ils ont regretté amèrement d'être partis d'Aubervilliers.
Ah oui, parce qu'il y a une vie, il y a quelque chose. Hein, il y a...
Il
rien ne se passe, c'est aussi qu'on ait justement cet effet amplifié de décrochage avec des quartiers récents, nouveaux et complètement renouvelés, et des quartiers qu'on aura continué à laisser à l'abandon et qui vont se dégrader, qui auront des équipements qui seront de moins en moins à la hauteur déjà de ce que devraient être des équipements publics tout simplement, mais aussi de ceux qui existent juste de l'autre côté de la route, et ce sentiment aussi de déclassement et de décrochage qui peut être très fort en fait. Donc à un moment on ne peut pas dire qu'il peut rien
parce qu'en fait on s'aperçoit que il n'y a rien qui fait en fait. Rien. Ces dernières années, on s'est aperçu que les choses se dégradaient de plus en plus. Et rien n'est vraiment positif pour le moment.
Après, si derrière la question, c'est la question de pourquoi on ne fait pas que de la réhabilitation et des démolitions, je ne sais pas dans quel ordre commencer ma réponse. Je sais pas. Je pense que qu'il y a, parfois une pertinence à faire des démolitions, tout simplement. Enfin, c'est aussi qu'en fait, on bute quand même sur quelque chose qui est que les projets de réhabilitation, comme de démolition, enfin comme tous ces projets en fait de renouvellement urbain au sens large, sont des projets qui sont extrêmement coûteux. Sont des projets qu'en fait les villes ou même les EPT ne peuvent pas porter sur leurs fonds propres. En fait, si il n'y a pas de subvention de l'ANRU, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien. S'il se passe une réhab un peu classique ici, parce que le bailleur a un peu les fonds et qu'il était vraiment temps de la faire, mais voilà ce qui se passe. Et que donc, en fait, pour mener des projets de renouvellement urbain, aujourd'hui, on a quand même besoin des financements de l'État.
On lui va acheter un slime. Hein qui t'a dit ça? T'as l'argent?
En gros, si Action Logement finance autant l'ANRU, c'est qu'ils ont besoin derrière d'avoir des conditions favorables pour eux construire des logements. Voilà. Et donc Action Logement, eux, ils font du logement social, mais pas que. Et pour équilibrer des opérations, de toute façon, pour qu'à un moment tout ça puisse se faire, que la ville puisse avoir des sous pour construire des équipements publics, etc., il y a un moment, il faut vendre de la charge foncière, c'est-à-dire vendre des terrains à la mesure de ce qu'ils valent par rapport à ce qu'on peut construire dessus. Donc voilà, ça, ça dépasse l'ANRU, c'est une question d'urbanisme, ça fait partie des règles du jeu de l'urbanisme, c'est que on ne peut pas faire d'espace public, on ne peut pas faire rentrer des recettes pour les collectivités, etc., si on ne vend pas à des promoteurs des terrains pour les construire et valoriser la charge foncière du truc. C'est comment on équilibre ça, c'est comment on fait en sorte que les logements privés et les terrains qu'on vend aux promoteurs, on les maîtrise, on sait qu'ils vont arriver là, qu'ils vont fonctionner avec tel bout de ville, etc., que derrière on a les équipements qui permettent d'accueillir cette nouvelle population, etc. Tout ça qu'il faut repenser. Mais évidemment, dans l'urbanisme, que ce soit dans l'ANRU ou ailleurs, il y a un mécanisme où à un moment il faut se poser la question de savoir quelle est la charge foncière.
Si ça, tu pouvais t'acheter plusieurs choses avec 8 euros, mais toi t'as acheté une seule chose.
C'est bête ça.
Moi si j'étais toi, moi j'aurais acheté plusieurs choses. Pas une seule chose.
Moi si.
C'est toujours des solutions techniques qui sont trouvées et on répond jamais aux problèmes sociaux. Hein. Donc on va résidentialiser pour empêcher le deal, les passages, etc. Mais en fait, on ne fait que déplacer un problème, on ne le résout pas du tout. La même chose quand ils ont fermé le passage qui était là dans Daquin. Donc c'était pour empêcher tous les squatteurs du hall qui taguaient partout, qui étaient... Déjà, on ne pouvait plus, c'est vrai. Mais bon, couper le passage, ça n'a pas résolu le problème, ça l'a déplacé simplement. Donc c'est ça aussi qui c'est problématique quoi. On répond jamais aux vraies questions.
Alors ça c'est pareil, c'est que aujourd'hui l'État pousserait au max pour qu'on fasse beaucoup d'habitats privés et qu'on rebâtisse, parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de foncier disponible sur Émile Dubois. Donc l'État, il dit, bah, y a de quoi construire. Et puis eux, ils sont très poussés par des gens qui ont envie de construire et de faire des logements. Eux, ils poussent à max. Et la ville, elle, est plus de dire, nous, on ne veut pas densifier notre ville qui est déjà très dense. Mmh. Ce qui est à la fois vrai et pas vrai. Mais en tout cas, du coup, il y a quand même un peu une logique... Contradictoire.
Je trouve ça écœurant. On asphyxie des villes. Pourtant, Barbilla, elle a fait beaucoup de choses. Hein.
Ça suffit pour chanter.
Même l'ANRU, par rapport à des villes qui voudraient être vraiment requins, là, à ce moment-là, serait un garde-fou là-dedans. Après, ça n'empêche pas que, de toute façon, si la ville veut faire de la charge foncière qu'elle veut vendre à des promoteurs, et il y en a plein de villes qui le font, ils se mettent en dehors du projet ANRU. En fait, l'ANRU, c'est pour apporter des subventions publiques, pour construire des équipements, pour des machins, etc. Et ça pose des conditions pour ne pas faire n'importe quoi.
Après, ce qui est toujours compliqué, c'est que en fait, la rénovation urbaine, comme d'autres sujets, c'est des sujets qui sont hyper techniques, qui sont difficiles à médiatiser, qui sont très contraints aussi, en fait, parce qu'il y a aussi la difficulté qu'en fait, l'ANRU, on ne peut pas lui présenter un projet... Enfin, il y a tout un tas de règles, en fait, que les projets doivent respecter pour rentrer dans le cadre des financements de l'ANRU. Donc, c'est vrai qu'il y a cet équilibre à trouver.
Mais c'est pareil, on nous parle d'héritage, mais tout ça, c'est pas pour les habitants d'ici. En plus, il n'y a qu'un pourcentage qui se réduit de plus en plus de logement social. Donc, c'est surtout de l'accession à la propriété. Mais c'est pas pour les habitants du territoire. C'est pour les gens qui viennent de Paris ou d'ailleurs.
Et on avait envie de se rapprocher et puis on avait besoin de plus d'espace. Et ici, il y avait de quoi trouver des appartements plus grands et dans des prix qui étaient raisonnables pour nous. Voilà. Et on avait envie d'une vie plus simple. On est venu ici, c'était bien.
Voilà. Alors, la gentrification... Alors, la gentrification, ils n'aiment pas ça, nos élus. Hein. Ouais, mais c'est pourtant ça hein, qui est posé. C'est comment... Mais même dans la rénovation urbaine, hein, parce qu'on est avec un pourcentage beaucoup plus réduit de logements sociaux qui va se construire et d'accession à la propriété, qui va être plus important. Mais des populations qui sont aussi pauvres que les nôtres, c'est pas eux qui vont accéder à la propriété. On nous parle de parcours résidentiel, mais il n'est pas pour les gens d'ici. Enfin, ouais, moi, je trouve qu'il y a tout un discours là qu'il faut démonter.
Caturer la position de l'ANRU. Et le but de cette agence-là, c'est pas de vendre des terrains à des promoteurs privés. Le but de cette agence-là, c'est de réussir à transformer les quartiers. Eux, leur conception, c'est de se dire, en créant un équilibre d'habitat, on va créer un équilibre de cadre de vie et...
Et nous, on se serre les coudes entre voisins, entre commerçants. Et on finit par connaître un peu tout le monde. Et ça, c'est le côté positif du quartier. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres quartiers.
Enfin, entre l'aménagement du fort, la rénovation urbaine de ce quartier, la gare du Grand Paris Express qu'on va avoir au fort, la piscine qu'ils veulent mettre. Bon, il y a pour 15 ans de travaux, là. Mais ça, les nuisances pour les gens, on n'envisage jamais.
C'est une qui est un peu complexe, que tout le monde ne maîtrise pas. Et parfois, même les acteurs les plus impliqués sont un petit peu perdus. Ils se disent, mais comment on va réussir à faire aboutir le truc voilà. Donc c'est quand même une grosse machine.
Bon, de toute façon, on ne sait pas trop comment ça va se passer.